Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans le JDA, une intervention et des questions. La ministre française des armées, Florence Parly, doit être auditionnée ce jour par la commission des affaires étrangères et de défense du Sénat sur l'intervention de l'armée française au Tchad. Selon l'association Survie, la légitimité d'une telle intervention peut être remise en doute. Alors qu'en pensez-vous ? Nous en parlerons dans quelques instants avec Thomas Borrell, il est porte-parole de l'association Survie. Pour participer à cette émission, nous donner votre avis sur ce sujet, poser vos questions à notre invité, appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Mais d'abord, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Chers amis de l'auditeur Africa numéro 1, je viens juste d'écouter les pensées de Fatou Birama. Et je voudrais déjà saluer son courage d'avoir eu ce culot, c'est même pas un culot, la responsabilité de poser le problème. Parce que moi aussi, je suis agacé. Voilà, il faut dire, il faut appeler un chat un chat. Je suis agacé. Est-ce seulement quand une communauté, en l'occurrence les Juifs, sont insultés ou on va dire maltraités, entre guillemets, qu'il faut se rassembler? Ou est-ce quand une personne est insultée et maltraitée? Parce que cette marche-là, pour moi, je ne dirais pas qu'elle n'a pas lieu d'être. Elle a lieu d'être, au contraire, il faut le faire. Mais est-ce que le racisme a une couleur? Est-ce que le racisme est destiné à une seule communauté? Voilà. Bonne journée, au revoir.
Oui, bonjour, Africa de Montréal. Je m'adresse aux pays africains. J'ai dit les Américains, ils sont au Burkina pour aller former l'armée africaine. Les armées africaines. Il est temps, les Africains, réveillez-vous. Depuis les temps de colonisation, on a pris notre indépendance. C'est le même Occidentaux qui dit qu'il vient former notre armée. Ça n'a pas empêché de faire coup d'État. Et ça n'a pas empêché de faire leur rébellion. J'ai dit les temps, les Africains, réveillez-vous. C'est comme les dons que l'Occidentaux vous donne. Il vous donne 2 milliards d'euros. Et ça trouve qu'il vous a déjà récupéré 4 milliards. Prenez votre destin en main. Vous-même formez votre armée. J'ai dit, l'Afrique, il y a des hommes. Soyez soudés. Il ne faut pas qu'on puisse être divisé. Laissez ces Occidentaux-là. Ils ne viennent pas pour nous. Ils sont là pour isoler leur intérêt. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci, bonjour et au revoir.
Bonjour les amis du JDA. Bonjour Madame Hartmann Stéphanie. C'est encore un panafricain à l'appareil. Donc moi, je viens pour l'intervention d'aujourd'hui concernant l'affaire de l'intervention de l'armée française au Tchad. Moi, je m'insurge beaucoup contre la République française, parce que quand on fait des leçons de démocratie à certains pays, surtout concernant les pays d'Afrique, il faut à un certain moment regarder dans le miroir, de se dire: est-ce que je dois intervenir en donnant des leçons de démocratie dans ces pays d'Afrique, évidemment, parce que c'est un petit souci quand même. Moi, je suis indigné de voir que dans un pays comme le Tchad, qui est soi-disant partout, les Français le disent, il y a eu des responsables, mais peut-être qu'ils ne le disent pas trop, parce qu'il y a des intérêts de la France au niveau du Tchad concernant le pétrole, que les Français puissent soutenir une dictature. C'est une dictature. Je dis bien le Tchad à sa tête. Le président Idriss Déby est une dictature. Merci. Bonne journée à vous les amis du JDA. Bonne journée à vous Madame Hartmann, parce que votre émission est une bonne émission. Je vous remercie. Au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en composant le 01 55 07 58 Zéro aujourd'hui dans le JDA, les questions autour de l'intervention de l'armée française au Tchad. La ministre française des armées, Florence Parly, est auditionnée ce jour par la commission des affaires étrangères du Sénat sur l'intervention de l'armée française au Tchad. Une audition qui se fera à huis clos. Nous en parlons tout de suite avec Thomas Borrell, porte-parole de l'association Survie. Thomas Borrell, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors l'association Survie a publié une note d'analyse autour de cette intervention et autour de la légalité de cette intervention de l'armée française au Tchad. Vous distinguez trois cadres pour juger de la légalité de cette intervention. Le cadre international, le cadre franco-tchadien et le cadre franco-français. Première question, Thomas Borrell, avant de donner la parole à nos auditeurs. Vous écrivez, sur le plan international, le gouvernement et l'état-major français sont inattaquables d'un point de vue légal. Est-ce que finalement, ce qui pose le plus problème dans cette intervention, c'est la légalité d'un point de vue du droit français, franco-français ?
Alors, tout d'abord, ce qui pose le plus problème, c'est évidemment la question de la légitimité. Et c'est par rapport à ça qu'on a publié cette note, où il y a toute cette partie d'analyse sur le cadre légal, mais qui est pour nourrir un débat qui doit être un débat politique sur la question de la légitimité et pourquoi, comment aujourd'hui l'armée française vole au secours d'un dictateur en Afrique. Mais si, pour revenir à votre question, effectivement, il y a différents aspects. Il y a eu beaucoup de confusion sur ces notions de légalité. Le gouvernement a dit qu'il n'y avait pas besoin d'un accord franco-tchadien, ni même d'une résolution de l'ONU ou quoi que ce soit, pour répondre à une demande d'un chef d'État. Effectivement, c'est vrai. Par contre, il faut avoir un accord franco-tchadien, normalement, qui régit les règles de stationnement de l'armée française au Tchad. Mais ça, ce n'est pas spécifique à cette intervention. C'est sur le fait qu'il y a l'opération Barkhane depuis 2014, puisque les textes qui étaient pour l'opération Épervier depuis 1986, a priori, mais je dis bien a priori, puisqu'on n'a pas d'informations, ne peuvent pas encadrer l'opération Barkhane. Et puis, effectivement, il y a la question du droit français et de la constitutionnalité, puisque tout simplement, la Constitution prévoit à son article 35 qu'en cas d'une opération extérieure, le Parlement est informé dans les 3 jours. Donc là, le gouvernement dit qu'il a informé le Parlement, et on peut aussi se demander sur la nature de cette information, si elle était réellement complète, est-ce qu'elle était dans l'esprit de l'article 35 de la Constitution. Mais surtout, il y a l'opération Barkhane, qui est une opération depuis 2014, et là, le même article 35 dit qu'au-delà de 4 mois, le Parlement doit autoriser la prolongation d'une opération extérieure. Or, le Parlement français n'a jamais été saisi sur la prolongation de l'opération Barkhane, déclenchée le 1er août 2014, Donc, en réalité, depuis fin 2014, l'opération Barkhane se poursuit en violation de l'article 35 de la Constitution française.
C'est très clair. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs, puisqu'on évoquait peut-être la demande, vous évoquiez la demande, la lettre du président Diaby. On va écouter Diaby. Diaby, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Oui, mais Diaby, vous coupez votre radio, votre téléphone.
Il n'y a pas de problème.
Pardon, je vais parler comme Diaby.
Vous
êtes habitué, en plus, c'est pour ça que je... Vous savez comment on fonctionne, Diaby?
Je sais très bien, Stéphanie.
Ça va très bien et vous, bienvenue dans le JDA, Diaby.
Ouais, merci. Je vais juste déposer 2 questions seulement ou 3. Et je vais demander vraiment jusqu'à quand les Africains, on va nous prendre nos responsabilités à nous-mêmes. Parce que regarde, à Côte d'Ivoire, c'est les Français qui sont babordés. Mmh. Au Mali, c'est les Français qui sont intervenus. À Tchad, c'est les Français qui sont intervenus. Mais quand est-ce que nous, les Africains, on va dire enfin, on est capable de ne pas notre responsabilité? Parce que vraiment, c'est la honte. C'est la honte pour toute l'Afrique. C'est pas pour le Tchad seulement.
Vous aviez une autre question, Diaby, je crois.
Moi, hein?
Vous aviez une autre question. Vous avez dit au standard, est-ce que ce sont les présidents africains qui demandent l'intervention de l'armée française? C'est ce que vous vouliez savoir.
Exactement ce que je voulais poser des questions. Est-ce que c'est les chefs d'État africains vraiment, réellement? Quand est-ce qu'on va savoir que c'est les chefs d'État africains qui demandent à la France d'intervenir à chaque fois? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On a tué Kadhafi, on disait c'est un dictateur. Mais Idriss Déby, il est là depuis que moi je suis pas né. Et quand est-ce qu'il va partir? Voilà, Stéphanie.
C'est très clair, Diaby. Restez à l'écoute. C'est intéressant ce que disait Diaby, en tout cas sur la demande des pays africains. Là, comme on le dit, Thomas Borrell, c'est une demande d'Idriss Déby. On a parlé d'un courrier. On avait vu la même chose effectivement aussi pour le Mali, où après coup on avait sorti une lettre du président Yokouna Traoré pour justifier l'intervention. C'est peut-être pas comparable avec la situation au Mali.
Alors, on peut s'interroger sur la comparaison par rapport à la nature des groupes qui sont visés. Mais par contre, sur la question légale, c'est exactement la même chose. Et effectivement, à chaque fois, c'est plusieurs jours après qu'on apprend qu'il y a une lettre qui avait été rédigée, etc. Les Maliens s'amusent beaucoup avec ça en disant que finalement on a couru après le président par intérim à l'époque du Mali pour lui faire signer la lettre qui avait été rédigée par d'autres. Là-dessus, moi, j'ai pas d'informations, mais ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la nature de cette lettre, elle n'enlève rien à la première partie de l'intervention de Diaby, qui est que finalement la France se positionne encore et toujours comme le gendarme de l'Afrique. Il a parlé de la Côte d'Ivoire en 2011, il a parlé du Mali en 2013, où on avait dit donc, que la France était la plus mal placée pour intervenir parce que ça relégitimait la question de l'armée française en Afrique, alors qu'elle a une responsabilité immense dans le fait que ces États s'effondrent face à une menace comme ça a été le cas au Mali en 2013. Et puis aujourd'hui au Tchad, où alors là c'est carrément en soutien direct, ouvert, assumé, explicite à un dictateur qui a été, Diaby disait avant même sa naissance, qui a été installé en octobre 1990 par la DGSE, par les services secrets français. C'est la France qui a fait Déby et c'est la France aujourd'hui qui maintient Déby là-dessus, c'est très clair, et le gouvernement vient de l'assumer une nouvelle fois.
Et un auditeur tout à l'heure parlait des intérêts français au Tchad, il a évoqué le pétrole, peut-être une réaction là-dessus, c'est pas l'intérêt les moins économiques de la France au Tchad que plutôt stratégique. Parce que la France n'a pas beaucoup d'intérêt économique au Tchad, finalement.
Il y a effectivement du pétrole dans le sud tchadien, mais la France n'est pas impliquée, les entreprises françaises ne sont pas impliquées dans l'exploitation de ce pétrole. Par contre, effectivement, le Tchad, c'est un gigantesque aéroport pour l'armée française. C'est une base permanente de l'armée française et c'est un point à partir duquel l'armée française rayonne dans toute la région. Donc ça, c'est même, on le retrouve dans des rapports parlementaires où les parlementaires font état de leurs discussions avec des gradés de l'armée française où ils expliquent qu'en fait, on a besoin du Tchad, on a besoin de conserver ce point finalement à partir duquel on va rayonner dans la région. Et donc le Tchad est finalement une forme de caserne géante à ciel ouvert pour l'armée française. Et là-dessus, il serait temps que les politiques français se réveillent et assument que ça ne peut pas être une politique du 21e siècle.
On va aller du côté de Conakry, retrouver Thierno. Thierno, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie et bonjour à l'ensemble des amis auditeurs de numéro 1 de l'émission GDA.
Alors bonjour Thierno, j'espère que la ligne va tenir. Depuis Conakry, quel regard vous portez sur cette intervention?
Moi je pense que cette intervention n'honore pas la France parce que je me pose tant de questions de savoir de quoi se mêle la France. Vu ce qui s'est passé à Libye, là, c'est la France qui a appuyé les rebelles pour déstabiliser le régime. En Côte d'Ivoire, avec Licorne, ils ont appuyé les forces républicaines pour faire face à Laurent Gbagbo. Ça, il y a des années. À présent, c'est même la France qui s'oppose aux rebelles d'NZR pour faire face à Déby. C'est pas du tout possible. Il y a incohérence dans leur lutte ici en Afrique. Pourquoi s'opposer aux rebelles qui luttent? Une lutte armée, ce n'est pas une France terroriste. Au lieu d'intervenir, il faut que la France sache que le Tchad et les autres États africains sont des États souverains. Au lieu de se mêler militairement à bombarder les combattants d'NGR, de EFR et les autres qui se luttent depuis des années dans cette zone, ce n'est pas la déstabilisation de la Libye qui les a permis d'avoir des hommes dans leurs rangs. L'IFR existait avant la mort de Kadhafi, tout le monde le sait. La France, moi j'ai pensé que la France est en Afrique pour faire face au terrorisme au lieu de se mêler dans les affaires internes des pays souverains. C'est pas du tout normal. Il faut que la France
clair,
soit en mesure de protéger leurs citoyens parce qu'ils sont victimes même à cœur de Paris par des frappes de terroristes. Ils ne sont pas capables de les protéger. Donc, de quoi se mêler dans les affaires internes des États africains?
Alors justement, Thierno, puisque vous répétez de quoi se mêle la France des États internes, des affaires internes des États africains, je vous remercie. On va écouter Draman qui voulait un peu aller dans ce sens-là et je reviendrai vers vous, Thomas Borrell, pour une réaction parce qu'après tout, ce sont les États souverains qui font appel à la France. Draman, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Bienvenue dans le JDA, Draman.
Oui, merci. Bon, le temps est court, mais on va dire que la France fera de ce qu'il voudra en Afrique, et quand il voudra. Et même le Sénat qui est en train d'auditionner tout ça, c'est pour juste comme ça nous laver les yeux, les Africains. Mais toujours est-il que c'est les intérêts de la France qui vont toujours défendre, au-dessus de tout, même s'il y a une bêtise qui a été commise en Afrique, mais ils ne vont pas le sortir dehors. Donc c'est à quand les Africains eux-mêmes se prendront responsables de l'Afrique. Et d'autre part, la deuxième question, jusqu'à quand la France va continuer à allumer le feu en Afrique et jouer les pompiers pyromanes. Parce que là, on sait très bien tout ce qui se passe. Idriss Déby fait les affaires de la France, même s'il ne joue pas sur le pétrole. C'est un point stratégique pour la France. Donc, on est là pour le soutenir sur ça. Et on sait très bien, Sarkozy a été libéré des gens là-bas. Il l'a dit à Paris, je vais aller les chercher pour l'affaire de l'arc des jouets. Et donc, il les a amenés. Et dimanche, il a ouvert un tribunal au Tchad pour sortir les ressortissants français, les amener ici. Donc, tout le monde sait que c'est un manque de respect qui est pour l'Afrique. Et maintenant, les Africains doivent quand même être responsables.
C'est clair, Draman. Et justement, Draman, je vous remercie, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vais peut-être vous demander une réaction, Thomas Borrell. C'est vrai que la France s'est pas levée un matin comme ça, bon, même si la France est déjà bien installée au Tchad, pour aller bombarder les colonnes de l'UFR. Beaucoup d'auditeurs parlent de la responsabilité des Africains. C'est quand même des États souverains qui font appel à la France. Je veux dire, la France ne fait que répondre à une demande. Il ne faudrait pas non plus déresponsabiliser les présidents qui la font.
Oui, bien sûr. Alors, cette question, elle est toujours extrêmement importante puisque c'est se demander finalement les intérêts de qui défendent ces présidents-là et ces chefs d'État-là, grâce à qui ils sont au pouvoir et qui est-ce qu'ils défendent. Et là-dessus, je pense qu'il faut... Alors moi, je parle en tant que Français en France et je m'intéresse à la responsabilité des acteurs français. Mais pour discuter beaucoup avec des militants, des activistes un peu partout en Afrique, je pense aussi qu'il faut quand même avoir conscience qu'il y a beaucoup de gens, et depuis toujours, il faut faire attention au glissement afro-pessimiste de cet argument-là, parce que sinon, on oublie qu'il y a beaucoup de gens depuis toujours qui militent, qui se battent, qui prennent des risques considérables, beaucoup plus importants que les risques que moi, je peux prendre en parlant aujourd'hui à votre micro, sur ces questions-là, et que ces gens-là sont... il y a une répression, il y a une répression féroce. Encore au Tchad, là, il y a eu des arrestations de personnes qui avaient posté sur des réseaux sociaux des propos dits hostiles au régime. Donc, toutes ces personnes montrent que les Africains, en fait, sont... est-il besoin de le rappeler, très responsables, pour répondre et reprendre le mot de Draman, et qu'ils n'ont pas attendu la question de la France. Non, le problème, c'est plutôt que pour pouvoir parvenir à quelque chose et que leur lutte arrive à un objectif qui est de prendre justement leurs responsabilités, on pourrait dire en tout cas prendre leur destin en main au niveau politique, avoir des institutions qui défendent réellement les intérêts des populations, eh ben, il faut couper le cordon ombilical qui maintient ces dictatures à des puissances étrangères, notamment la France, qui les soutiennent. Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que la France va forcément défendre ses intérêts, mais il n'y a pas d'incohérence quand elle intervient au Tchad, il n'y a pas d'incohérence avec ce qu'elle a fait avant en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. C'est-à-dire que la France intervient en faveur de ses propres intérêts, effectivement. Et quand on dit qu'il faut lutter contre le terrorisme, j'attire juste l'attention de vos auditeurs sur le fait que la notion de terrorisme est très floue. Idriss Déby s'en sert aujourd'hui pour discréditer ses opposants. Mais même en France, il y a quelque chose de flou. Lutter contre le terrorisme, c'est quoi? Si ça permet en réalité de soutenir des régimes qui sont terroristes parce qu'ils terrorisent leur population, comme Idriss Déby, mais on pourrait parler du Cameroun, du Congo, du Togo, du Congo, etc., du Gabon, je ne sais plus si je l'ai dit. Bref, tous ces États où la France est très présente. Et puis, c'est aussi des chefs d'État qui, par leur politique, l'incurie de leur régime, poussent toute une jeunesse dans les bras de ces groupes armés qui n'ont que ça. Donc finalement, Déby, aujourd'hui, ne peut pas être une solution au terrorisme. Il est un dictateur et finalement un dirigeant lui-même terroriste qui terrorise sa population et qui pousse sa population dans les bras des groupes armés qu'ensuite on vient qualifier de terroristes. Donc l'incohérence, elle est plutôt à ce niveau-là.
Finalement, oui, vous dites finalement en soutenant ces dictateurs, la France encourage presque le terrorisme dans votre raisonnement. Merci beaucoup. Thomas Borrell, l'auditeur, son nom ne s'affiche plus, avait évoqué l'audition d'aujourd'hui de Florence Parly, la ministre des Armées. Qu'attendez-vous de cette audition? Quel est le but de cette audition? Parce que si on lit les propos de Christian Cambon, sénateur Les Républicains, président de cette commission, il justifie tout à fait l'intervention de la France. Il dit le jour où on aura le califat, on dira si on avait su, on serait intervenu. Il dit le Tchad est un de nos alliés dans la lutte contre le terrorisme et subit des pertes considérables. Et puis il met en garde quand on dit ce n'est pas un régime démocratique, on parle à tout le monde, sont-ils tous des parangons de démocratie? Face au propos d'un président de commission, quel est l'objectif de cette audition finalement?
L'objectif de cette audition, je ne sais pas exactement. En tout cas, ce n'est pas la plus grande transparence puisqu'elle se fait à huis clos et que même la presse ne peut pas y assister. Donc, on aura plus de 48 heures plus tard un compte rendu qui aura pu être édulcoré des propos les plus problématiques. Et là-dessus, on voit bien le manque de transparence de ce débat-là. Mais pour nous, ce qui est important dans le fait que les parlementaires se saisissent de ce sujet, c'est déjà de créer du débat public là-dessus. Il faut voir que jusqu'en 2008, c'était le domaine complètement réservé où les parlementaires n'avaient même pas leur mot à dire sur la prolongation d'une opération extérieure. On a eu une réforme de la Constitution en France en 2008 qui a introduit les dispositions dont je parlais en début d'émission et qui, pour nous, est un point d'entrée vers du débat public. Évidemment que si on regarde les débats parlementaires qu'il y a eu sur la prolongation d'autres opérations extérieures, on ne peut être, au niveau de l'association survie, que déçu de la manière dont les politiques français reprennent finalement en cœur des arguments qui viennent légitimer l'action de l'armée française en Afrique et qui ont finalement très peu de sens critique, alors même qu'il suffit, on l'entend encore à votre antenne, d'ouvrir un peu les oreilles sur la manière dont c'est perçu, vécu directement dans ces pays-là. Donc, pour nous, ce qui est important, et là où c'était aussi un peu l'objectif de cette note, c'était rappeler qu'il y a des arguments légaux, qu'il doit y avoir un débat parlementaire, mais c'est ensuite, évidemment, de s'investir dans ce débat politique pleinement pour faire valoir des arguments qui sont des arguments de l'illégitimité de l'armée française en Afrique et que l'armée française n'est pas une solution, elle n'est que le problème.
Merci Thomas Borel, il nous reste encore une dizaine de minutes, on va écouter les auditeurs. Jules a une question pour vous, bonjour Jules.
Oui, bonjour madame.
Bonjour Jules,
oui, bonjour,
on vous écoute.
Merci, bonjour à votre invité.
Bonjour.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que la France fait du beau temps et le mauvais temps en Afrique quand elle veut. Donc le rapport de force est trop déséquilibré. Donc, nous, les Africains, on est vraiment désarmés. Donc, la question que je voulais vous poser, aujourd'hui, on fait le débat à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça va changer pour le Tchad et pour les Africains? Et la dernière chose que je voulais vous dire, s'il vous plaît, n'oubliez pas le cas du Cameroun, parce que nos compatriotes sont en prison. N'oubliez pas.
On n'oublie pas le cas du Cameroun, mon cher Julien. On a fait une émission hier, hein, c'est écouté à 18h dans le grand débat. Très excellente question. Une réponse peut-être pour Jules, Thomas Borel. Qu'est-ce que ça change finalement pour le Tchad si les parlementaires français se saisissent de ces questions de politique étrangère?
Alors, dans l'immédiat, malheureusement, et ça rejoint ce que je disais juste avant la question de Jules, c'est que ça risque, dans l'immédiat, de ne pas changer grand-chose, puisque les parlementaires sont, dans leur grande majorité, acquis à la cause de l'interventionnisme français en Afrique. Et c'est bien là-dessus le travail qu'on entend mener, nous, en France, pour essayer de les convaincre de revenir sur cette position. Mais donc, on est sur un travail de longue haleine. Et simplement, on est au début d'un processus, je l'ai dit, cette réforme constitutionnelle qui amène les parlementaires à se positionner, elle date de 2008, et donc ça fait quand même déjà 10 ans, mais par rapport à bientôt 60 ans d'interventionnisme débridé en Afrique de la part de l'armée française, on peut espérer que ça va avancer. Évidemment, l'audition d'aujourd'hui, ce qu'on pourrait en espérer, si elle n'était pas à huis clos, si la presse au moins avait accès aux informations, s'il y avait un semblant de transparence, ce qu'on pourrait en espérer dans l'immédiat, c'est déjà des informations, puisque les informations filtrent au compte-gouttes, que là-dessus, on est finalement dans la main de l'état-major des armées français qui veut bien nous dire à quel moment il est certain.
Même les Tchadiens sont peu informés finalement. On est bien d'accord, l'état tchadien a très peu communiqué là-dessus.
Oui, je pense que l'état tchadien a très peu communiqué là-dessus, à part pour dire que c'était des groupes terroristes. Et donc reprendre cette rhétorique de la guerre contre le terrorisme chère aux Français pour justifier cette intervention. Mais finalement, on se retrouve à essayer de débusquer une information ici ou là, à espérer que des journalistes puissent aussi trouver des informations que nous, au niveau de nos associations, on n'arrive pas toujours à avoir. Donc voilà ce qu'on espère de ce type d'audition comme aujourd'hui. C'est une étape dans un processus plus large qui est à la fois d'obtenir des informations et de créer du débat public pour enfin en France soit interrogée la légitimité de l'interventionnisme militaire en Afrique.
Merci Thomas Borel. On va encore écouter quelques auditeurs. On va écouter Ange. On remercie Jules qui on souhaite une bonne journée. Et on dit bonjour à Ange. Bonjour Ange.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bienvenue dans le JDA.
Merci. Bonjour à votre invité. Bonjour. Ce que je voulais souligner, c'est que lors de des guerres, de différentes guerres mondiales, les Européens, notamment la France, a eu recours aux Africains pour venir combattre à leur côté. Et depuis cette époque jusqu'à maintenant, je me pose des questions. Les Africains n'ont pas suffisamment
d'armée.
Non, je dors pas.
D'armée, pardon. Moi, un peu. Et donc, des armées assez performantes, c'est ça que vous vouliez dire peut-être,
Ange? Oui, oui.
Voilà.
Donc justement, jusque-là, ils n'ont pas encore d'armée performante pour pouvoir combattre tous ceux qui les attaquent. Je veux encore aller sur un fait. Le fait que la France a eu recours aux Africains il y a des années de cela. Et aujourd'hui, au 21e siècle, où la plupart des généraux, des gradés de l'armée africaine ont fait leurs études ici en Europe, ils repartent en Afrique, et quand il y a un petit pépin, on fait encore appel...
C'est une excellente remarque, mon cher Ange.
J'ai pas compris.
Ah, pardon, décidément. C'est une excellente remarque, hein, parce que vous parlez de la formation, effectivement, hein, beaucoup d'accords de coopération entre l'armée française et ses partenaires africains prévoient
ces accords, l'armée française n'a jamais respecté. Et donc, il est temps que les Africains se prennent en main.
C'est très clair.
Voilà. C'est quand même étonnant que certains chefs d'État font appel de manière officieuse à l'armée, parce que quand le peuple africain ne sait pas du tout qu'ils font appel, voilà, c'est en catimini, ils signent des papiers, et puis l'armée française intervient. L'armée française n'intervient pas comme ça.
Vous seriez finalement favorable, mon cher Ange, à un contrôle citoyen de l'autre côté, sur le continent africain, de la part de voilà, dans les pays africains. Merci beaucoup de votre intervention. Écoutez, Jérôme, et je demanderai peut-être une réponse tout à l'heure, dans quelques minutes, à Thomas Borrell, justement, sur cette formation. Hein, c'est vrai, hein, on peut se poser la question. Ça fait des années que la France informe des armées sur le continent. Pourquoi ne sont-elles pas opérationnelles? Jérôme, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bienvenue dans le Journal des Auditeurs. Merci de votre patience, Jérôme.
Il n'y a pas de souci. Non, moi, je voudrais juste, en écoutant vos auditeurs, hein, toutes mes questions que je me posais ont eu réponse. Et je remercie vraiment l'analyse de votre invité. Hein. C'est assez pertinent, ses réponses, ses remarques et tout ça.
Et je vous invite à aller sur le site de survie, hein, où il y a toutes les analyses de survie sur des domaines qui...
D'accord.
Peuvent certainement vous intéresser.
Je veux faire remarquer tout simplement de mon côté, nous qui sommes de la diaspora, nous sommes français d'origine africaine, on a très très mal quand on attend ces gens d'informations à chaque fois où la France est en train de malmener les pays africains, alors que ce n'est même pas dans son intérêt, parce que moi ce que je veux faire remarquer, la nouvelle génération d'Africains qui arrivent ne voudront plus de des Français en Afrique, au niveau des affaires, au niveau du business et tout. Moi, je voyage beaucoup, hein. Je parcours pas mal de pays africains, je vis ici en France aussi, parce que l'image de la France est dégradée dans toutes les capitales africaines. Il faudrait que la France prenne conscience de ça. La France gagnerait beaucoup plus en aidant, ou même pas en aidant, en laissant ces pays-là se développer. Ça pourrait être un bon réservoir pour l'économie française à long terme. Parce que la France, présentement, on dit la France défend ses intérêts, mais c'est des intérêts à court terme. Voyons la nation africaine, dans 50 ans, les Africains vont tourner dos à la France. Ça, il faudrait qu'on fasse comprendre aux dirigeants français au jour d'aujourd'hui qu'ils changent leur politique, sinon, dans 50 ans, l'Afrique et la France particulièrement, ce serait vraiment un divorce complet. Tout simplement, c'est toute cette analyse que moi je voulais faire.
C'est très clair, Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme, finalement, qui dénonce une politique hein, d'un autre temps et qui pourrait pénaliser les intérêts de la France. Merci, Jérôme. Il y a Sob et Dribris hein, qui nous dit sur Facebook qu'il y a deux présidents très dangereux pour l'Afrique, ceux qui affichent leur servilité totale à l'égard de la France, comme Alassane Ouattara. Puis on a un autre type, comme Idriss Déby, qui cache leur soumission. Mais quand ils sont en danger, la France sait se montrer reconnaissante en venant bombarder leurs adversaires. Thomas Borrell, hein, Ange avait une remarque plutôt intéressante, il disait depuis 60 ans on forme les armées africaines et finalement on appelle toujours la France à l'aide et on a, quand il y a une attaque, un danger. Est-ce que la France forme vraiment les armées? Comment ça se passe?
Alors effectivement, il y a sans cesse cet argument qui revient. Il y a eu le programme RECAMP au début des années 2000, le renforcement des capacités des armées africaines. Et puis, quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée, il y a eu de nouvelles annonces qui avaient déjà été renouvelées quelques années auparavant. En fait, à chaque président français, on a des annonces sur le fait que, vraiment, là, on va travailler à renforcer les capacités des armées africaines, que la France n'a plus vocation à intervenir. Et puis, à chaque fois, on voit dans les faits que c'est très différent. Il faut voir aujourd'hui, effectivement, que cette formation, elle continue. Il y a un petit peu moins de stagiaires qui peuvent venir directement en France, des officiers à Saint-Cyr, etc., qu'auparavant. Mais la France déploie de plus en plus, et c'est un des volets de sa coopération militaire, un volet de formation dans ces pays-là, avec ce qu'on appelle des ENVR, des écoles nationales à vocation régionale, c'est-à-dire une école qui peut être basée au Cameroun et dans laquelle vont participer des officiers ou sous-officiers des différents pays de la sous-région. Donc là-dessus, la France maintient ça et elle y voit un intérêt très direct qui est une notion d'influence sur le fait de maintenir des liens étroits entre l'armée française et ses armées africaines. Et finalement, tous ces programmes de formation, quand on regarde avec du recul, on voit que c'est à ça que ça sert. Ça sert à maintenir ce lien quasiment intrinsèque entre ces armées d'Afrique francophone et l'armée française et de ce fait à empêcher finalement une forme d'autonomie, d'autonomisation de ces pays. Donc on le constate malheureusement depuis plus d'une quinzaine d'années et ces différentes annonces successives. Je voudrais revenir juste sur un mot sur ce que disait Jérôme. Effectivement, je le rejoins sur le court-termisme affolant de la politique française. Ça fait longtemps qu'on le constate. Et le pire, par rapport au sentiment d'hostilité vis-à-vis de la France ou des Français qui grandit dans ces pays-là, c'est qu'aujourd'hui, ça nous est opposé comme étant un des arguments pour continuer à soutenir ou à se taire sur soutenir certains régimes ou se taire sur certains cas. Et tout à l'heure, il y avait Jules qui évoquait le cas du Cameroun avec l'emprisonnement de tous les militants de Maurice Kamto, mais aussi avec la guerre dans les régions anglophones au Cameroun. Et là-dessus, quand on interpelle la diplomatie française, ils nous disent « on peut rien dire, sinon le pouvoir en place va se servir du sentiment anti-français pour discréditer une forme d'ingérence ». C'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose de complètement tordu qui voudrait que la France peut continuer à intervenir militairement comme c'est le cas au Tchad et on voudrait nous faire croire que ça n'est pas de l'ingérence, mais elle ne pourrait pas condamner des violations des droits humains ou retirer ses coopérants militaires dans des pays où il y a des crimes qui sont commis, sinon ça serait de l'ingérence. Voilà le discours officiel auquel on fait face.
C'est le paradoxe français. Merci beaucoup Thomas Borrell d'être venu dans nos studios répondre aux questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association Survie. J'invite encore les auditeurs qui ne connaissent pas l'association à se rendre sur votre site survie.org. C'est la fin de cette émission. À continuer le débat sur les réseaux sociaux, notre page facebook.com/journal des auditeurs. Rendez-vous demain jeudi pour une nouvelle édition du JDA. Nous parlerons du rôle des fondations d'entreprises dans la promotion de la culture africaine. Nous serons notamment avec une invitée, Françoise Cosson, directrice de la Fondation Orange. Si vous voulez participer, laissez un message sur le répondeur au 01 55 07 58 05. Restez à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.